ou téléchargez vos émissions préférées.
Pour réagir,
rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com.
La voie est libre.
Alexandre Meyer.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. La marche nationale des veilleurs s'est achevée samedi 31 août dernier dans la soirée à Paris, place de la Concorde. Après une ultime traversée de Paris, traversée de la capitale depuis l'esplanade de la Défense, qui a rapidement tourné au jeu du chat et de la souris avec les CRS qui ont déployé plusieurs cordons sur le parcours. Au terme d'un bras de fer de quelques jours, la préfecture de police de Paris avait en effet formellement interdit toute manifestation sur les Champs-Élysées et la Concorde, lieu symbolique et sensible à quelques pas seulement de l'Élysée. Les veilleurs sont passés outre et le rassemblement a bien eu lieu sous les célèbres candélabres au seuil des jardins des Tuileries. Mais à quoi bon continuer? La loi Taubira étant dorénavant adoptée, les veilleurs peuvent-ils en obtenir l'abrogation? La réponse dans La Voix est libre. N'hésitez pas à nous appeler 01 56 56 44 00 pour participer à ce débat, faire entendre votre opinion, poser toutes vos questions à mes invités. Puis je vous rappelle que vous pouvez également nous écrire sur le site internet, une seule adresse, www.radionotredame.net. La Voix est libre ce matin et les micros sont à nouveau ouverts pour une année tous ensemble. Et puis c'est la petite surprise de la rentrée, nous sommes en direct. Vous pouvez en effet suivre ce débat sur internet, en streaming et sur le site internet de Radio Notre-Dame, le radionotredame.net. Voilà, en couleur bien entendu, avec vous. Toute de rose vécue, non, de vêtue, non, pas aujourd'hui.
Bonjour, si, Francis Barjot.
C'est rose, hein,
c'est rose. C'est rose pâle. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez lancé l'avenir pour tous. On vous avait pu entendu depuis un certain temps à cette antenne. Bienvenue parmi
Mais
nous.
Je suis
que pensez-vous de ces initiatives des veilleurs? Pensez-vous qu'ils doivent continuer? Ne risquent-ils pas de finir par agacer même leurs supporters? En effet, on n'a pas beaucoup entendu parler de loi Taubira samedi soir. On a entendu des poèmes, des chansons, de très beaux chants grégoriens, des chants scouts. Est-ce que vous pensez que ça peut, que ça va suffire?
Alors, d'abord merci, je suis ravie de revenir. J'ai l'impression qu'on repart pour une nouvelle année.
J'en ai peur, aussi chez vous,
chez nous, à Radio Notre-Dame, et c'est une grande joie. Effectivement.
Surtout le réseau COFRAC que l'on salue, puisque toute la France peut vous écouter à ce micro et bien entendu témoigner au 01 56 56 44 00. Stéphane.
Merci beaucoup Alex. Donc oui, pour répondre à votre question, je suis venu moi-même avec Clément Borioli d'Homovox. Aujourd'hui, le mouvement qui s'est lancé l'année dernière, qu'on a lancé tous ensemble, doit continuer tous ensemble, mais c'est vrai, sous des formes différentes, dont les veilleurs. C'est très important. Mais il est absolument fondamental de conserver la flamme. Quel que soit le temps qui passe, ce qui nous menace le plus, c'est de laisser disparaître, enfoui, et s'enfuir justement, cette énergie qui a levé ces millions de Français. La veille est une réponse, mais attention, pas si on perd le cœur de ce qui nous a mobilisés. C'est cette loi fondamentalement injuste mais déstructurante de notre civilisation, de notre société, cette loi Taubira qui n'est rien d'autre que le changement de l'anthropologie humaine.
Donc votre ferme opposition à la loi
c'est
Taubira
le mariage,
demeure.
Voilà. C'est le mariage. En ce qui change la filiation humaine, ce mariage nouveau, ce mariage qui n'en est pas un, ce mariage gay qui n'est pas celui de l'union de deux hommes pour faire un enfant, est aussi la cause des personnes homosexuelles au sein de cette nouvelle législation qu'il faut réformer d'urgence.
Alors les veilleurs ont-ils réalisé l'union de toutes les familles, y compris la vôtre, Frigide Barjot, composant le front du refus à la loi Taubira? Ludovine de la Rochère, vous y étiez samedi, vous êtes présidente de la Manif pour tous. Est-ce que vous pensez que les veilleurs ont su créer cette cohésion?
Alors je pense que les veilleurs ont magnifiquement su créer cette cohésion. Il faut d'ailleurs souligner, pour répondre à la première question que vous posiez, qu'ils n'ont jamais évoqué dans leur veillée le dispositif politique, la question politique en elle-même. Ils ne l'abordent toujours que sous l'angle de la culture et de la réflexion. Donc ils invitent à des moments de méditation aussi, qui sont extrêmement ouverts et dans lesquels un très grand nombre peuvent se reconnaître. Et pour avoir été à un certain nombre de veillées à Paris et en région, et samedi soir encore, il y a tous les genres et tous les styles. Mmh. Et plus encore, si je pousse un petit peu plus loin, si vous le permettez Alexandre, si tu le permets, avec les Sentinelles, les Veilleurs Debout,
ouais.
Ils ont changé de nom, eux aussi ont un public qui est encore un peu plus... hétéroclite, si on peut dire.
Oui.
Il y a même quasiment des touristes qui finissent par venir veiller.
Donc les Sentinelles, les Veilleurs Debout vont continuer eux aussi leur combat silencieux, mutique et
absolument,
dressé vers le
absolument.
Ciel.
Alors simplement, ils ont annoncé samedi soir qu'ils changeaient de nom. Donc maintenant, ils s'appellent les Sentinelles, justement pour éviter les ambiguïtés entre les deux mouvements. Et quoi qu'elle arrive, les Veilleurs ont une approche qui invite vraiment à dialoguer, à réfléchir, à se remettre en cause. Et c'est une très très belle démarche. Mmh.
Clément Borioli qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Frigide Barjot, vous êtes cité, vous êtes membre du collectif homovox.com, vous avez participé à la marche des veilleurs, puisqu'on va revenir quand même sur les événements de cet été. La marche des veilleurs a-t-elle tenu ses promesses? On demandera à une jeune veilleuse tout à l'heure par téléphone, qui a accompli une partie du parcours, de répondre à cette question. Voilà, durant le mois d'août, et vous êtes membre, vous aussi, fondateur de l'Avenir pour tous, est-ce que la veillée tient ses promesses? Doit-elle continuer, ou est-ce que c'est un mouvement qui est un peu à bout de souffle?
Mais je veux dire, les veilleurs, c'est un mouvement qui s'est levé pour pacifier le dialogue à la base. Et,
pacifier les manifs, surtout qui dégénéraient.
Et il ne faut pas oublier la violence qui me paraît première, c'est celle de cette loi Taubira. Et j'espère que les veilleurs ne s'éloigneront pas de cet objectif qui est l'abrogation de cette loi. Et dans le sens où il faut également respecter le droit d'union qui a été ouvert, à mon goût, pour les couples de même sexe, pour rentrer dans cette paix sociale.
Demander l'abrogation de cette loi, est-ce que ça vous paraît pas surréaliste, sachant que l'opposition, l'UMP en particulier, est très très divisée sur ce sujet, que peu de voix se sont fait entendre,
c'est-à-dire
qu'en cas d'alternance, il reviendrait
les
dessus.
Les veilleurs vont beaucoup plus loin, et nous allons d'ailleurs tous beaucoup plus loin. Non seulement cette loi, comme disait très bien Frigide, ce n'est pas un mariage, cette loi est tout simplement contraire à la réalité de l'être humain, qui est que seule l'union d'un homme et d'une femme peut engendrer un enfant. Mmh. Or le mariage, c'est la filiation, ce qu'on a toujours dit.
Qu'on a levé le mouvement.
Par conséquent, exactement, et que le mouvement et que tous poursuivent. Donc, non seulement les veilleurs ont bien raison de continuer, mais nous continuons, et bien sûr, en incluant toutes les autres problématiques qui viennent avec celle-ci, à savoir la procréation médicalement assistée qu'on voudrait ouvrir aux couples de même sexe. Un projet de loi a été déposé le 19 juillet.
Oui.
S'il devait y avoir, mais ça n'est pas possible puisque nous agirons, la PMA pour tous, dite pour tous, nous aurons.
Excuse-moi,
par égalité, la GPA.
Toute femme seule pourra pratiquer une...
Oui, mais le pour tous implique un sens extrêmement positif,
oui, d'accord,
généreux,
non,
etc.
Mais
ça ne l'est pas pour les enfants.
Mais
c'est une formule qui est extrêmement trompeuse. C'est un plan de communication extraordinaire que ce mariage dit pour tous et cette PMA pour tous.
Bien,
c'était ça que je voulais souligner.
Et donc,
les veilleurs peuvent continuer. Alors peut-être qu'ils ne vont pas parler de la loi Taubira en permanence toutes les 10 minutes parce qu'elle ne va pas être activée
là
tout de suite.
Beaucoup, c'est un peu la problématique.
Mais ça reste l'arrière-plan parce qu'il y a tout ce qui va avec. Et puis, liberté fondamentale, liberté d'éducation, ils sont sur des problématiques très larges et très fondamentales.
Frigide Barjot.
Oui, je rebondis sur ta question sur les politiques ne vont pas s'en saisir. Eh bien, justement, nous sommes là, nous tous manifestants, militants, dans la réflexion, mais ne perdons pas l'action. Et l'action, c'est d'aller voir les politiques. Nous étions à la Sainte-Baume, là, récemment, vous savez, aux universités d'été de l'Observatoire sociopolitique de Toulon, avec Monseigneur Ray, et il y avait Hervé Mariton. Eh bien, Hervé Mariton est chargé du projet politique à l'UMP. Je ne suis pas UMP, je le dis tout de suite, je ne suis ni droite, ni gauche, ni parti, aucun. Et attention à ne pas politiser, justement, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire à rentrer dans un parti. Mais sachez qu'à l'UMP, grâce à Hervé Mariton, l'abrogation de la loi est en route. Mmh. L'abrogation, comment se fera-t-elle? Par un référendum qui portera le mariage dans la Constitution, comme union de l'homme et de la femme, pour défendre la filiation, et laisser une simple loi d'union civile sans filiation. Hervé Mariton nous l'a confirmé, il porte ça à l'UMP. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus avancé que ce qu'on nous dit, et que le porteur même du projet, mais comptez sur nous tous, en tout cas aujourd'hui, dans le courant que je représente, Avenir pour tous, pour remonter dans un grand mouvement pour tous, où j'espère qu'on se réunira avec ce que porte la manif aujourd'hui, dans lequel nous irons voir
donc, avec ma...
les candidats. Et je peux vous dire que ça ira jusqu'au futur candidat à la présidentielle.
Donc il a mis le pied dans la porte. Est-ce que vous pensez que les municipales l'année prochaine, les européennes qui vont suivre,
bien sûr,
changeront encore un peu plus la donne en cas d'une alternance ou en tout cas d'un rejet
je pense
assez sûr. Prononcé de la majorité.
Vous êtes absolument, vous nous le savons tous, il va y avoir une vague bleue. Enfin, quand on voit où en est l'état actuel du président de la République en termes d'adhésion, enfin voilà, tout est dit avec ce qui se prépare. Bon, il faut que nous soyons les citoyens qui allons faire porter par cette vague bleue ce sujet fondamental de la réforme de la loi.
Le sujet fondamental, il est aussi porté par la vague bleue marine, puisque Marine Le Pen et d'autres lieutenants du Front National font régulièrement des appels du pied à la Manif pour tous, à ses supporters, à ses partisans, en disant « mais on partage vos valeurs ».
Ah, moi, j'ai jamais eu de contact avec le FN, ils ne m'ont jamais contacté, appelé ni quoi que ce soit d'abord. Mmh. Ensuite, ils n'ont pas soutenu ni appelé à manifester.
Certains y étaient dans les manifs. Il y avait Collard, on m'a assez reproché, Ludo, souviens-toi d'avoir salué M. Collard.
Il y a eu deux ou trois qui, eux, ont choisi de venir, mais le FN dans son ensemble n'a jamais pris position contre, etc. Et là, la maire de Boulogne...
C'est bien, justement, ce que tu dis est bien grave, parce que je vous rappelle, je te rappelle, Alex, que effectivement Marine Le Pen disait les manifestants FN font ce qu'ils veulent, mais elle n'a pas porté ce projet elle-même non plus.
Et alors,
la maire de Bollène là s'est trouvée en difficulté. Elle n'a pas
parce
été
qu'elle
soutenue.
A refusé
elle ne voulait pas déléguer. Elle voulait pas déléguer.
Non, mais elle n'avait pas besoin parce qu'il y avait un adjoint au maire qui voulait bien le faire. Mais il n'y a eu aucune prise de parole de son camp, si je puis dire.
Elle était un peu raide. Non, elle avait dit on ne déléguera pas dans ma mairie.
En tout cas, elle n'a pas été soutenue. Elle n'a pas été soutenue. Alexandre, quand même une chose. Remise en cause de la loi Taubira, ça c'est bien entendu ce que tout le monde vise. La constitutionnalisation du mariage homme-femme, ce serait fantastique, mais il faudra un changement de majorité parlementaire.
Bien
ah bah oui,
sûr,
mais ça c'est pour 2017.
Sûr. C'est pour ça qu'il faut l'inscrire, Ludo. Tu le sais, nous en avions discuté avant le vote de la loi. Tu sais que c'est pour ça qu'il faut porter dans l'opinion publique le fait que c'est réel, que c'est réaliste d'inscrire la constitution dans la
constitutionnalisation du mariage
homme femme. Je reviens de Croatie. J'étais invité avec Clément, nous y étions ensemble. Tu peux raconter ce qui s'est passé en Croatie, parce que sinon on va monopoliser toutes les deux. Laissons la parole.
On va partir de toute façon sur les chemins de France. On va avoir.
Mais c'est très important. En Croatie, le référendum est en train de marcher.
Oui.
Et oui, mais le contexte c'est très différent là aujourd'hui. En fait, c'est un rêve, mais dans quelques années,
ça n'est
il
pas
faudra
un rêve.
Le.
Non,
il
non,
faudra
c'est
le
déjà comprendre. Maintenant.
Clément Borioli, un petit mot sur la Croatie. Comment ça s'est passé là-bas?
Alors en Croatie, on a été accueillis par un groupe de jeunes catholiques qui sont engagés dans la société en Croatie et qui ont vraiment cette flamme d'espérance que je pense semblable à celle des veilleurs et qui porte vraiment au cœur le sujet de la constitutionnalisation du mariage homme-femme. Pour un peu tacler ce que le gouvernement essaie de faire chez eux à l'heure actuelle, en voulant modifier l'éducation sexuelle qui est donnée au collège, etc., et en voulant inculquer déjà l'idéologie du genre qui arrive également chez eux.
Ils prennent exemple en avance, si vous voulez. Ils vont plus vite parce qu'ils ont vu ce que nous avions levé, comme sur quoi nous avions mis le doigt en France et comme ça levait les foules. Ils ont eu 700 000 signatures pour leur référendum en 15 jours, il en fallait 350 000. En Macédoine,
700 000, ça rappelle une certaine pétition.
Exactement,
dans
vous voyez, et ça, c'est de la démocratie participative.
Ouais. Et oui, ça existe dans certains pays, hélas, pas dans le nôtre. Merci,
oui.
Monsieur Hollande.
Mais tu sais, Monsieur Hollande, il va aussi, à mon avis, rapidement être désavoué par les Français parce qu'il empêche la démocratie.
Entre autres choses,
voilà.
C'est vrai.
Allez, on va partir un peu en voyage, si vous le voulez bien. On écoute Vinciane Joly, qui était une veilleuse, qui a participé à la marche des veilleurs durant le mois d'août. Elle en est l'une des Benjamines, elle est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour Vinciane.
Bonjour.
Pourquoi avoir décidé de rejoindre le groupe des marcheurs cet été, Vinciane?
Alors moi en fait j'étais présente à la veillée où la marche a été annoncée. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de porter comme ça un projet sur le long terme et d'avoir plusieurs buts, donc de découvrir à la fois le territoire par la marche et d'aller à la rencontre des Français par les veillées qui avaient lieu tous les soirs. Dans lesquels on lisait des textes, on écoutait de la musique et avait lieu des témoignages.
Voilà, texte, musique, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça vous semble des moyens efficaces de contribuer à la lutte politique et au combat éthique contre la loi Taubira, selon vous?
Alors selon moi déjà le combat s'élargit par rapport à la loi Taubira qui était juste le point de départ qui a permis la fondation du mouvement des veilleurs. Mais oui, je pense que c'est important de s'appuyer sur la culture, qui est notre héritage, donc c'est quelque chose qui nous rassemble. Et ça aura sûrement une efficacité sur le long terme. Mais sur le court terme, il ne faut pas s'attendre à avoir des changements radicaux, je pense.
La culture, un héritage qui rassemble vous, en tout cas, est-ce que ça contribue à, comment dire, à créer ou à vous affermir dans vos convictions pour justement pour l'avenir, peut-être pour un combat politique, qui sait ?
Bah oui, tout à fait, parce que c'est justement en écoutant des textes, de la poésie, du théâtre, en écoutant des morceaux, que qu'on se rassemble et qu'on découvre l'envie de se former. Et c'est en se formant qu'on pourra ensuite avoir un poids politique peut-être plus tard.
Combien d'étapes est-ce que vous avez parcouru avec, avec les veilleurs en marche ?
Alors moi j'ai marché une douzaine de jours à peu près.
Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce périple ?
Alors j'ai retenu que...
Parce qu'on a entendu, on a lu tout au long du mois d'août, peut-être de manière un peu sarcastique, les comptes rendus de la presse qui disaient « Les marcheurs ne sont pas au rendez-vous, c'est un tout petit groupe, Clément Borioli, vous réagirez. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez été bien accueilli par le public que vous avez rencontré au bord de la route et sur les points des veillées ?
Oui, bah écoutez, je pense que la question du nombre n'a pas grande importance. L'important, c'est que ce soit des citoyens qui spontanément décident de se rendre à cette marche librement. Et après... oui, on a quand même rencontré les Français, alors pas pendant la marche, parce qu'on marchait plutôt sur les chemins à l'écart des routes, mais le soir, après la marche, on tractait dans les lieux fréquentés, et lors de la veillée, il y avait plusieurs veilleurs autour de la veillée qui expliquaient le mouvement, le pourquoi, et qui aidaient les gens à comprendre, et on a eu des très bonnes réactions en général,
oui.
Pas beaucoup d'indifférence finalement. Et on a été très bien accueillis.
Est-ce que vous étiez présente samedi soir à la veillée de la place de la Concorde ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est le dernier rassemblement auquel vous participerez ou est-ce que c'est un mouvement auquel vous adhérerez quoi qu'il en coûte et pour un long moment ?
Quoi qu'il en coûte, je ne sais pas, mais oui, j'ai l'intention de continuer à participer aux veilleurs lors des prochaines veillées à Paris.
Merci beaucoup Vinciane d'avoir été avec nous.
Au revoir Vinciane.
Et bon courage pour la suite. Ludovine de la Rochelle, réaction, et puis Clément Borioli nous racontera son impression.
Oui, je crois Alexandre que la société française a besoin des veilleurs. Et ce témoignage, cette présence, cette disponibilité à la société française est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs on en voit le succès immense partout en France. Dans notre société de tohu-bohu, d'agitation, où beaucoup sont scotchés par goût et par obligation, c'est pas une critique, mais enfin le fait est que beaucoup sont scotchés, si je puis dire, devant leurs écrans, et tout de même assez terrifiant. Et on parle tout le temps dans notre société du manque de sens, de la souffrance, de la société française dans son côté un peu dépressif, lié à notre mode de vie. Et ces veilleurs sont tellement, tellement à l'encontre de cette ambiance actuelle et cette invitation à la réflexion et à la méditation, comme je le disais tout à l'heure, de manière très ouverte, est tout à fait extraordinaire.
Au point qu'on prenait même un risque, il faut bien l'avouer, en parlant encore ce matin, puisque c'est peut-être une actualité qui est passée. Néanmoins, que l'on se rassure, on abordera bien entendu les thèmes classiques de cette période de rentrée en abordant demain la rentrée scolaire, la rentrée des professionnels mercredi, puis bien sûr, malheureusement, le conflit militaire qui se prépare en Syrie, que l'on abordera jeudi avec des spécialistes, et le financement des retraites, ou un sujet d'ordre plus économique, vendredi. Voilà, nous, je vous donne rendez-vous, restez bien à l'antenne. 01 56 56 44 00 pour y participer. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce débat en direct et en images sur le site internet radionotredame.net, puisqu'il est rediffusé en streaming. On accueille Marie-Dominique Dallès par téléphone. Bonjour Marie-Dominique.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, moi je crois qu'il y a quand même une tradition judéo-chrétienne qui est prégnante en France et que beaucoup de Français, malgré le fait que la loi Taubira soit passée, beaucoup de Français peuvent comprendre que que bon, ben, c'est pas dans le sens de la nature. On dit que la nature a toujours raison. Bon, je sais pas si ça peut s'appliquer systématiquement partout, mais un homme et une femme, c'est vrai que ça me paraît plus simple et plus raisonnable.
Oui.
Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que la loi est passée. Certes, elle est passée, c'est un fait. Mais il est possible aussi qu'elle ne s'applique pas, que les Français reviennent à leur bon sens et qu'elles tombent en désuétude.
Je me permets de
préciser. Merci Marie-Dominique.
Marie-Dominique, elle s'applique en ce moment.
Oui, hein,
et nous ne sommes pas contre son application.
Oui.
On doit laisser les
contre
conseils.
Son principe.
Voilà, le principe sur la filiation.
Ouais.
C'est deux choses, cette loi. C'est l'union et la filiation. Nous sommes toujours levés contre le changement de filiation
pour
l'union.
Pour ma part, je suis absolument opposée au mariage en tant que tel entre deux personnes de même sexe. Et bien sûr, notamment parce que le mariage ouvre à la filiation. Mais d'une manière générale,
mais elle s'applique. Tu es d'accord qu'elle doit s'appliquer aujourd'hui. On ne peut pas contester le mariage.
Je soutiens les maires qui veulent exercer leur liberté de conscience et qui veulent faire objection de conscience. Il est scandaleux que la circulaire Valls n'ait pas intégré la possibilité pour les maires de refuser d'agir contre leur conscience, d'une part.
Mais
d'autre part,
peuvent.
Il y a bien des urgences aujourd'hui, gender, PMA, dites pour tous et GPA. Et c'est ça, c'est là-dessus que nous devons agir avec fermeté et urgence.
Conséquences, vous retrouvez, on va écouter dans un instant.
On peut déléguer. Attendez, il y a un service public du mariage. La loi s'applique. Je tiens vraiment à dire cela. La loi s'applique.
Déléguer aux adjoints
et
municipaux.
Et on doit déléguer aux adjoints municipaux, ce que n'a pas fait Madame Bompard à Bolène. Ouais, voilà.
Elle avait un adjoint qui a accepté de le faire.
Vous écoutez dans un instant, vous êtes l'avocat de la Manif pour tous. Vous nous direz si les veilleurs ont pris des risques en ne suivant pas l'interdiction qui leur avait été adressée par la préfecture de police de Paris. Mais auparavant, Clément Borioli, vous avez marché vous aussi sur les routes de l'ouest de la France cet été en compagnie des veilleurs. Combien d'étapes avez-vous parcouru avec eux?
Alors j'ai parcouru une étape entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Challans. C'était vraiment un petit groupe, hein, comme les médias ont pu le décrire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment eu un accueil très important, où il y a une écoute qui va et qui pousse à la réflexion chez ces veilleurs. Mais à mon sens, il y a quand même un piège dans ce mouvement, c'est que ça devienne, à mon goût, une religion laïque. Une religion laïque à la Payon, dans le sens où on se détourne du premier fondement qui s'est créé contre une loi qui nous a tous fait lever les uns et les autres pour des convictions diverses et variées. Et il ne faut pas quitter cet objectif premier à mon goût et ne pas s'enfermer dans des réflexions ou dans une espèce de méditation qui peut conduire à une religion laïque qui serait un piège à mon sens.
Pourtant, j'allais vous demander
si
comme Marie-Dominique, les veilleurs n'étaient pas un mouvement chrétien qui ne s'assume pas.
Voilà.
Parce qu'on y entend des chants grégoriens à la Vierge Marie comme samedi, ou l'Espérance.
Ça fait partie du patrimoine culturel, le grégorien, n'est-ce pas?
Patrimoine culturel, néanmoins, lorsqu'on leur demande.
Mais la Vierge Marie, quand on est républicain.
Non, mais ils sont aussi bien chrétiens que toute ouverture philosophique, justement, dans cet esprit de réflexion. Moi, je vois pas en quoi ça pourrait être négatif ou contre-productif, et ils ne quittent pas leur première urgence, mais ils savent, la question du mariage, mais ils savent qu'il y a tout ce qui va avec et auquel on va être confronté là, maintenant,
tout
cette année.
Mais selon vous, Clément, il ne faut pas oublier, pour moi, l'engagement également dans l'action. Il y a beaucoup de paroles, c'est très intéressant,
c'est
ça nourrit, elle nourrit, mais il faut... Pour moi, il faut qu'il y ait un engagement, et c'est ce qu'a... Il y a un des veilleurs qui s'appelle Charles, qui a parlé, qui est un fondateur des veilleurs, qui a parlé lors de la veillée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a dit, n'oubliez pas, ce n'est pas aux autres, ne laissez pas les autres faire de la politique à votre place.
Voilà, c'est ce
et moi, j'invite chaque veilleur à faire de la pôle éthique. C'est vraiment important qu'ils s'engagent et qu'ils agissent. Pour moi, ils ont été nourris d'une réflexion pendant toute cette marche. C'est super.
Et c'est ce qui va leur donner les...
Et donc,
c'est ce qui va les booster pour agir.
Exactement. Il faut qu'ils soient boostés et il faut qu'ils s'engagent.
Mais la question de la culture...
Donc, selon vous, il est bon que ça puisse, aux yeux du grand public, ressembler à un salon comme on les tenait au XVIIIe siècle, en chant et
voilà une belle image.
En jouant de la cornemuse et du luth entre bonne société, il faut bien l'admettre aussi.
C'est ce que j'allais vous dire. En face, on a des adversaires qui, honnêtement, ne sont pas au niveau d'écouter des chants et qui sont dans une espèce de rouleau compresseur pour absolument tout défaire dans notre société. Moi, je trouve ça très bien de se poser un moment, de pacifier quand il y a de la violence.
Oui.
Mais attention, ne soyons pas angélistes non plus. À un moment, il faut aussi rentrer dans le temps électoral. Et les municipales arrivent et il est vraiment grand temps maintenant d'aller voir nos candidats.
Mais celle à laquelle on s'habitue jamais, d'ailleurs, c'est les cordons de CRS qui les entourent, qui nous montrent quand même que le rassemblement est pacifique, mais que la tournure qu'il peut prendre...
Quelle victoire symbolique, c'est magnifique.
On va marquer une très très courte pause, restez sur ce petit mot, puisqu'on doit le faire, et on écoute ensuite Maître Henri de Bourgard qui est avec nous, et Jean-Marie Salamito qui nous a rejoint par téléphone, 01 56 56 44 00 pour participer à cette émission, poser toutes vos questions à mes invités, à tout de suite.
La voie est libre, 01 56 56 44 00.
Au rendez-vous de l'histoire.
Bonjour, ici Éric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers.
Au rendez-vous de l'histoire avec Éric Picard, tous les mercredis à 21h sur Radio Notre-Dame. En ce moment, l'un de vos parents âgé ou dépendant est peut-être chez lui, victime de maltraitance. Insupportable, n'est-ce pas ?
Domidom, leader national de l'aide à domicile, vous rappelle qu'aujourd'hui est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance aux personnes âgées. Les auxiliaires de vie Domidom sont spécialement formés à l'aide aux personnes âgées. Parfaitement encadrés et régulièrement suivis, ce sont des professionnels en qui vous pouvez avoir une totale confiance.
Il y a 15 agences Domidom en Ile-de-France, forcément une près de chez vous. Pour une aide à domicile, appelez Domidom au 0805 02 92 30. Numéro vert, appel gratuit.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Boursorama achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat, après estimation, expertise gratuite.
Boursorama, 125 rue de Sèvres, 01 43 06 16 21. 43 06 16 21.
Boursorama,
nous donnons un prix à vos valeurs.
Bonjour, c'est Victor Loupin. Retrouvez-moi tous les mercredis à 11h30 et puis en rediffusion à 19h30 pour Écran Total, une nouvelle émission qui décortiquera pour vous toute l'actualité cinématographique et télévisuelle.
Chaque semaine, dans « Et Dieu dans tout ça », James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça, tous les vendredis à 21h et le samedi à 8h03 sur Radio Notre-Dame. La voie est libre.
Alexandre Meyer.
Retour dans La voie est libre pour adresser vos commentaires, réagir en direct, www.radionotredame.net. Pour participer à l'émission, faire entendre votre opinion, 01 56 56 44 00. Ludovine de la Recherche est avec nous autour de ce plateau, me tend un doigt vengeur.
Non, pas vengeur du tout, je voulais juste dire une chose très importante. Les 68ards ont imposé leur mode de pensée partout. Comment ? Pas en créant des partis politiques et pas en se faisant élire, même si bien sûr ça c'est nécessaire aussi, mais en diffusant leurs idées.
Il y en a quand même beaucoup en politique.
Oui, mais ils ont diffusé, ils ont diffusé leurs idées dans toute la société française, par les médias, par l'enseignement, par en effet aussi bien sûr la politique, mais tout ça, c'est une question de culture qui s'est diffusée partout. C'est pour ça que les veilleurs, c'est extrêmement intelligent, outre que c'est pacifiant, et je suis persuadé que tous les jeunes qui font partie des veilleurs vont être boostés pour aller agir, au sens où tu l'entends Clément, de manière
Jean-Marie Salamito, active. Qui est professeur d'université, nous l'expliquera, nous dira pourquoi il est très important ce bagage culturel, et également c'est en quoi est-ce qu'il apparaît même prophétique. Auparavant, je le disais, Maître Henri de Bourgard est avec nous. Bonjour Maître, merci
Bonjour.
De nous avoir rejoint. On aura aussi une merveilleuse en ligne, on se rappelle de ce très très beau mouvement de sensibilisation aux dégâts causés par la loi Taubira, selon elle. Elle nous expliquera pourquoi est-ce qu'elle continue de se mobiliser. Je vous posais la question tout à l'heure, les veilleurs prennent-ils des risques ?
Oui, ils prennent des risques, mais je serais tenté de dire ils aiment ça.
Oui.
Bien sûr, chacun sait que, en particulier la marche du 31 avait été précédée de beaucoup de communication de la part de la préfecture de police qui avait clairement laissé entendre sur un ton assez définitif que les choses ne se passeraient pas de cette manière. De toute façon, il était absolument impossible qu'une telle veillée ait lieu place de la Concorde. J'entends dire depuis, par la préfecture de police, que leur arrêté d'interdiction a été un franc succès, parce que les gens se sont déplacés par petits groupes.
Exact.
J'avais pas eu la sensation que l'objectif de l'arrêté était simplement de faire en sorte que les gens se déplacent par petits groupes.
C'est lisible.
L'arrêté disait très clairement que la place de la Concorde ne pouvait pas se prêter à une réunion de cette nature, que par conséquent c'était l'ensemble de la marche des veilleurs sur Paris qui était interdit, et que la veillée ne pouvait pas avoir lieu de la manière projetée. Mmh. Bon.
Est-ce que les CRS n'auraient pas dû se poster sur la place de la Concorde comme les sentinelles, d'ailleurs les veilleurs debout, un tous les 3 mètres pour éviter que les veilleurs ne s'y installent?
En vrai, je
ne leur donnez pas l'idée.
J'ai aucune conception de la manière dont on gère un événement de cette nature, mais je vois pas bien ce qu'ils auraient pu faire, en réalité. Et c'est en ça que c'était un peu voué à l'échec d'origine, parce que interdire une marche sur les Champs-Élysées avec des gens que on est absolument dans l'impossibilité de distinguer, oui, du touriste ou du marcheur, et puis ensuite essayer de gérer. Ils ont essayé de gérer, moi j'y étais le 31, de la même manière que j'ai été un soir sur la marche à Jarre-sur-Mer. Alors là c'était plus facile parce qu'effectivement on était moins nombreux, et puis peut-être aussi qu'à Jarre-sur-Mer on est moins agité qu'à Paris. Les autorités policières, les gendarmes qui
passaient... Et vous êtes en zone gendarme.
Voilà, les gendarmes qui passaient,
ça change peut-être
qui passaient voir les marcheurs et qui venaient au nombre de deux, étaient plutôt amusés par l'événement qui ne le sont à Paris.
Néanmoins, vous connaissez la détermination du gouvernement, du ministre de l'Intérieur en particulier, puisqu'il y a eu énormément de poursuites, de gardes à vue. Oui. On en avait fait le décompte au mois de juillet ensemble. Est-ce que les organisateurs qui se sont fait connaître ces derniers jours dans la presse en particulier, enfin, s'ils ne sont pas organisateurs, au moins les porte-parole du mouvement des veilleurs, ne prennent pas, eux, des risques de se voir un jour poursuivis pour rassemblement interdit ou des choses comme ça, de cette nature?
Si, bien sûr, mais je serais tenté de dire chiche.
Ouais. Oui, on prend tous des risques et on y est prêt, je crois, les uns comme les autres. Effectivement, d'ailleurs, monsieur le préfet de police, pour ma part, m'a écrit une lettre tout à fait officielle il y a quelques mois en me disant, chère madame, vous risquez des sanctions pénales pour tout ce qui se passe. En l'occurrence, à l'époque, c'était sur la place des Invalides. Il était d'une mauvaise foi extraordinaire, puisque ce qui se passait sur la place des Invalides ne concernait en fait la manif pour tous que dans le cadre de ces événements, et non pas 2 heures après, 3 heures après. Il mélangeait tout, c'était un amalgame bien sûr volontaire.
Henri de
Bourgard. Ouais. Je serais tenté de dire chiche, parce que, si vous voulez, de ce point de vue-là, la préfecture a été d'une grande aide, puisque elle-même a dit à travers ses arrêtés, ses communiqués successifs, que finalement elle n'arrivait à joindre personne, oui, que c'était déplorable parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, etc. Donc je vois pas bien que demain elle puisse en trouver un, en quelque sorte, juste pour pouvoir le poursuivre, même si judiciairement, ils y sont prêts, à vrai dire moi aussi. Et je ne suis pas sûr que ça serait de nature.
Le pool des avocats de la manif.
Oui.
S'enfrontent déjà les mains. On écoute Marie-Gabrielle qui est au téléphone avec nous. Elle a contribué à lancer le mouvement des merveilleuses, ces mères de famille, qui ont débuté par une veillée, elles aussi au pied du mur de la paix à Paris, dans les jardins du Champ de Mars. Des mamans qui ont veillé depuis donc des mois pour sensibiliser le public aux ravages du gender et aux dégâts, si je ne me trompe pas, provoqués par la loi Taubira. Vous confirmez, Marie-Gabrielle?
Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie d'abord de bien vouloir recevoir les merveilleuses.
Je vous en prie.
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Ludovine sur le fait qu'on ne lâchera pas là-dessus et que les merveilleuses, elles vont continuer aussi. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on s'est aperçu, en parlant dans la rue à monsieur, madame, tout le monde, qu'il y a un vrai besoin d'éclairage. Et en étant une merveilleuse là où on est, c'est-à-dire dans son environnement, quand on fait son marché, quand on accompagne ses enfants à l'école, en éveillant les consciences comme ça, au petit bonheur, comme ça, là, tous les jours, et on s'aperçoit que finalement les gens sont très mal informés, qu'en prenant le temps de parler juste comme ça sur le trottoir ou en faisant la queue dans le supermarché, les gens sont tout à fait intéressés par ce qu'on va dire et souhaitent... pose des questions et ignore tout en fait de la réalité. Et ils sont mais anesthésiés par ce qu'on peut leur dire à la télévision. Et quand on prend le temps de parler sans jugement, juste en éclairant la conscience, mais en étant disponible comme l'est une mère de famille avec ses enfants, on est là, on écoute, on parle, on reprend les arguments. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, il découvre des choses qu'en fait, il était à milieu de réaliser.
Est-ce que vous
juste témoignage, oui. J'ai parlé longuement avec une jeune fille de 20 ans, une heure avec elle, sur, elle me dit, moi, je suis hétéro ou homo selon les opportunités. Mmh. 20 ans, on a parlé ensemble, je lui ai posé des questions, je lui ai parlé de la beauté de son corps, et puis aussi qu'elle avait une très belle sensibilité, que c'était probablement lié à son corps, et qu'il y avait un lien entre sa sensibilité, son affectif, ce qui était de son cœur, ce qui faisait sa psychologie et son corps, etc., etc. Au bout d'une heure, elle s'est mise à pleurer en me disant, mais jamais personne ne m'a parlé comme ça de moi, ça me fait réfléchir. Et je me dis, mais on doit toutes les mères, on n'est pas obligé de veiller 24 heures. Mmh. Toutes les mères doivent être des petites sentinelles de l'invisible, comme disait Jean-Paul II, pour éclairer les consciences.
Marie-Gabrielle, est-ce que vous comptez perpétuer votre action justement dans le champ politique pour aller à la rencontre, encore une fois, de ce grand public, mais dans les urnes, pour le sensibiliser, mais à une plus grande échelle aux idées que vous défendez?
Est-ce que c'est le rôle d'une mère de famille d'orienter la politique? Je ne crois pas. Par contre, de dire aux gens de voter avec conscience, oui. De dire, voilà, pensez bien. Si les gens nous posent la question... C'est, écoutez, voyez avec votre conscience, est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon choix? Est-ce que vous pensez que ça a des conséquences qui sont dramatiques pour la société? Si oui, ben dans ce cas-là, allez voter plutôt dans... Enfin, voilà, voyez avec votre conscience. Mais officiellement, non, on n'ira pas sur un champ politique. Par contre, d'éclairer les consciences, vous savez, les gens sont vraiment pas bêtes. Moi, j'ai passé mon été en Vendée, et juillet, août, j'ai eu cette chance de pouvoir y aller 2 mois, je n'ai pas cessé de parler et aux fermiers, et à l'artisan, et au supermarché, et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Je n'ai pas vu une personne. Alors, on dirait la Vendée. Non, c'est pas vrai. La Vendée, il y a des gens qui sont comme les Parisiens, et qui sont tout aussi anesthésiés que les Français de partout. Et tous m'ont dit, en effet, c'est idiot. Je n'ai pas vu une personne favorable à cette loi et à la théorie du gender. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail de fond. Alors maintenant, les merveilleuses, ben, c'est toutes les maires de France. On est plus de 1200, je crois, à avoir payé 24 heures. Les merveilleuses reprennent la semaine prochaine à partir du 8 au 15.
Est-ce que vous pouvez nous donner le site, l'adresse du site internet, peut-être?
Oui, merveilleuse au pluriel, merveilleuse.com.
Merci beaucoup, Marie-Gabrielle. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne journée à vous tous.
Merci à vous aussi. Jean-Marie Salamitou est en ligne avec nous. Merci, professeur, d'avoir patienté quelques minutes. Vous êtes historien, professeur d'histoire du christianisme antique à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de Saint-Augustin, et des idées sociales et des attitudes politiques chez les chrétiens de l'Antiquité. Au long de l'année universitaire 2012-2013, vous avez observé cet engagement des étudiants dans la protestation contre la loi sur le mariage unisexe. Est-ce que l'on peut dire que vous l'avez même encouragé?
Oh, encourager, c'est beaucoup dire. À titre individuel, vis-à-vis des individus avec qui j'ai pu parler, oui, bien sûr, je les ai surtout pas découragés. Mais je les ai pas encouragés collectivement, ça c'était pas du tout mon rôle.
Vous les avez toutefois soutenus lors de la marche des veilleurs, puisque vous êtes intervenu au courant du mois d'août au Sable d'Olonne. Et quelle est l'impression la plus forte que vous avez tirée de cette participation au mouvement?
L'impression la plus forte, mais je dirais c'est la même depuis le début, puisque j'ai participé à une des toutes premières veillées au mois d'avril. L'impression la plus forte, c'est de voir à quel point ces jeunes ont une recherche courageuse et très libre de sens. Alors c'est pour cela que j'approuve beaucoup cette expression qui a déjà été lancée, que l'on a affaire à une jeunesse prophétique. En ce sens qu'il y a quelque chose de complètement nouveau. Et c'est pourquoi les sociologues qui parlent et certains journalistes doivent faire très très attention aux comparaisons qui semblent les obséder avec les années 30 ou avec la Seconde Guerre mondiale. Nous avons affaire à quelque chose de nouveau qu'il ne faut pas réduire par amalgame avec des questions du passé. Et je crois que la vraie question, elle a déjà été évoquée sur ce plateau, et d'une façon très forte, elle a été rappelée par cette merveilleuse qui vient de s'exprimer. La vraie question, c'est la question du sens. Mmh. Est-ce que nous apportons un sens à la vie? Et notre mouvement a cela de positif.
Selon vous, Jean-Marie Salamitou, les veilleurs ne sont donc pas des révolutionnaires de salon qui se gargariseraient de définitions encyclopédiques?
Non, d'abord, ils ne sont pas dans les salons. Ils sont dans des lieux qui ne sont pas forcément physiquement les plus confortables. Et puis, ils ont pris un certain nombre de risques à différentes occasions, en différents moments. Et puis, ils vont continuer et ils ne savent pas du tout vers quels risques ils vont. On voit une nouvelle tactique des forces dites de l'ordre depuis samedi dernier. C'est-à-dire de faire en sorte que la pression psychologique soit multipliée ennuyer les gens le plus possible, et également petite coopération ou collaboration de la RATP qui a mis dans le métro, en fermant des stations sans aucune nécessité, la RATP a mis dans le métro à cause de la manifestation des veilleurs. Mmh. Or, tout Parisien sait que la RATP ne dit jamais qui manifeste lorsqu'il y a une manifestation. Mmh. C'est assez amusant.
Et ça, vous pensez que ça va continuer de cette manière? Est-ce qu'à un moment donné, le système, non pas implosera, mais en tout cas s'effondrera sur lui-même à cause de cette dénaturation de l'usage de la force publique et de ses prérogatives?
Je ne sais pas ce qui va pouvoir se passer et quels sont les rouages du système. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un mouvement extrêmement important, totalement nouveau, qui prend différentes formes. Les veilleurs sont l'une des formes. Oui, oui. Et ce mouvement est là pour redonner du sens à la vie et sortir d'un hédonisme tristounet et dépressif dans lequel nous baignons depuis trop d'années.
Est-ce que vous partagez l'avis de cette merveilleuse Marie-Gabrielle qui était en ligne il y a un instant?
Oui.
Qu'il faut traduire ce combat dans la sphère politique, après s'être formé, aller confronter ses idées nouvellement acquises ou renforcées face à ses détracteurs, face au monde, pour essayer de le convaincre et d'emporter par les urnes dans notre démocratie la victoire que vous n'avez pas obtenue, qu'ils n'ont pas obtenue dans la rue les mois derniers.
Mais la victoire, je dirais qu'elle sera culturelle. Si nous créons par tous les moyens intellectuels et culturels possibles, des mentalités différentes, elles vont imprégner la politique. Alors bien sûr, il faut faire pression aussi sur les politiques, mais de manière plus subtile et plus durable, il y aura création, il commence à y avoir création d'un autre climat culturel, et ce climat culturel, je dirais qu'il imprégnera les hommes politiques, et en plus, parmi les veilleurs, parmi tous ces jeunes qui marquent un très fort changement et qui nous portent, je le dis en tant que professeur, ce sont les étudiants actuellement qui nous donnent des leçons en matière d'engagement. Donc ces jeunes-là, un jour, seront en politique, un certain nombre d'entre eux.
Est-ce qu'il faut, professeur, et là c'est à l'homme de lettres que je pose la question, est-ce qu'il faut arriver de tous ces mouvements à tirer une forme de vade-mecum, de manifeste ou de programme qui réunissent justement ces conceptions de la défense de la vie, de la dignité humaine, contre la théorie du genre, de la parité homme-femme, d'un véritable équilibre homme-femme? Est-ce que ça, on peut y parvenir? Est-ce que les intellectuels, comme vous, ont cette responsabilité à l'appui de la mobilisation des étudiants?
Je pense que les intellectuels ont beaucoup de responsabilités et qu'ils les ont assez souvent prises ces derniers temps. Ce qui est important surtout, c'est d'élaborer du positif, c'est-à-dire de donner, je répète, du sens à la vie et de revenir à une notion très ancienne en philosophie qui est celle de bonheur, tout simplement. On nous parle sans cesse de plaisir, de jouissance et de consommation. Il faut arriver à penser de nouveau le bonheur. Et ça peut se faire sous différentes formes, par différents manifestes, justement, avec une certaine pluralité et puis un fond commun, sans doute.
Merci beaucoup, Jean-Marie Salamito, d'avoir été
merci
avec
nous. Merci à vous.
Alexandre,
merci.
Samedi soir, il y avait 15% de nouveaux veilleurs. Enfin, Axel a fait lever les mains aux nouveaux veilleurs et à ceux qui étaient déjà venus. Il a estimé environ 15% les personnes qui venaient pour la première fois à une veillée. Donc ce mouvement, il va continuer de s'étendre. Mmh. C'était très intéressant, cette question.
Néanmoins, un groupe qui pouvait paraître plus restreint que les mois précédents.
Plus restreint que les mois précédents, ouais. Je crois pas, Alexandre. Il y avait vraiment plusieurs milliers de personnes. Il devait y en avoir bien 3000. On était le 31 août, hein. Et la police avait appelé à ne pas venir parce que c'était dangereux. Nous avons connu ça avec Frigide et la manif. La police avait essayé de décourager. Non, c'était une belle veillée.
Frigide Barjot.
Alors, moi, je voudrais juste nous placer dans une perspective un peu d'avenir, et de l'avenir pour tous, au sein de tous ces organismes spontanés qui se lèvent aujourd'hui, et de savoir comment on va un peu mettre de la cohérence dans tout cela. C'est ce qu'il y a de cette créativité de tous ces jeunes qui se réveillent, c'est formidable, évidemment. Je ne peux que m'en féliciter, et nous avons des jeunes de toute origine, j'espère, qu'ils vont venir encore rejoindre, mais un mouvement, on va dire un mouvement global et intégral pour véritablement ensemencer notre vie publique, notre vie culturelle, bien sûr, Ludo, tu as raison, mais politique, pour y mettre de l'éthique. Je reprends donc ce terme dont je suis un peu à l'origine, de pôle éthique. Notamment, il y a quelque chose qui nous guette, ça serait que des gens moins bien intentionnés profitent de tout cela parce que c'est peut-être pas assez organisé et structuré. Et notamment, je profite de ce que j'ai Ludovine, qui est devenue maintenant la présidente de la Manif pour tous.
Ah, ça fait longtemps, Frigide.
Monter cela, oui, ça fait longtemps, mais enfin, en tant que porte-parole maintenant, en même temps que présidente. Et je voudrais savoir quel est le lien entre les veilleurs et la Manif pour tous. Comment organiquement tout ça se passe? Et s'il n'y a pas un peu dans un peu de flou, le risque que des gens, ça, je pense évidemment des gens d'extrême droite et des gens moins bien intentionnés qui viennent.
Pour moi, il y a vraiment richesse de tous ces mouvements et complémentarité, l'avenir pour tous, les veilleurs, les sentinelles, la Manif pour tous. Alors la Manif a une ampleur très vaste, elle a une légitimité par le nombre de ses sympathisants et par l'activité très forte de ses sympathisants.
Mais quel est néanmoins, le lien avec les veilleurs?
Moi, tu le sais bien, Frigide, quand les veilleurs sont nés, tu étais là.
On n'a jamais pu on n'a jamais pu savoir comment ça se passait.
Il y a eu un certain nombre de... Ils sont 5 fondateurs qui ont eu cette idée-là. C'était le moment où la colère, et elle était légitime, cette colère des opposants au mariage gay, cette colère était très forte, et il y a eu une tentation, ça c'est resté une tentation, de dire, en se disant, on en a vu un certain nombre qui se disaient, mais enfin, les syndicats se font entendre, finalement nous sommes trop pacifiques, que faire? Il y a eu une petite hésitation.
Faut-il finalement pas brûler des poubelles, ils ont fini par s'asseoir sur l'espoir qu'ils avaient.
Exactement. C'est ça. Et c'est la naissance, parce qu'il y avait de la violence. Ouais. Mais là, il n'y a pas de violence, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et où est-ce qu'on va tous ensemble?
Alors, peut-être leur demander.
Voilà véritablement la question aujourd'hui.
Alors, attirer votre attention sur l'émission qui suivra d'Eleonore Veillas, qui aura en ligne des veilleurs et pourra certainement leur poser cette question. Quel sera l'avenir de ce mouvement? C'est à suivre sur les antennes de Radio Notre-Dame et bien entendu sur internet, sur le radionotredame.net. Quel sera l'avenir? On leur posera la question quand on les aura à ce micro. Maître Henri de Bourgard, où en sommes-nous des poursuites? Puisque ça, j'imagine qu'un certain nombre des participants aux récentes manifestations ont dû passer un été... parfois un peu délicat ou...
Oui, alors il y a un certain nombre d'actions judiciaires qui sont déjà en cours, il y en a d'autres qui sont à venir. Pour ce qui concerne les veilleurs singulièrement, il y a la plainte qui a été déposée au mois de juillet sur la soirée agitée de la place de la République, où 52 veilleurs avaient été interpellés. Je crois que c'est une des seules fois où les veilleurs ont non seulement été bloqués, retenus, mais où ils ont été en plus embarqués, ce qui était assez nouveau pour les veilleurs. Et j'ai bon espoir que cette plainte aboutisse à quelque chose. Alors peut-être pas de la part du parquet, qui pour l'instant en est seul saisi dans les 3 premiers mois, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il est assez probable qu'à la fin du mois d'octobre, le parquet me dira qu'il ne voit rien à redire. Mais moi, j'ai bon espoir. Je juge que les choses sont assez sérieuses. On a un certain nombre de procès-verbaux qui sont assez révélateurs de ce qui s'est passé ce soir-là. Et j'ai bon espoir qu'on puisse amener, pourquoi pas, un certain nombre d'autorités policières et pourquoi pas des autorités même de la préfecture de police à devoir s'expliquer de la manière dont ils ont géré ce mouvement. C'est en cela, d'une certaine manière, que le mouvement est aussi subversif. C'est que, dès lors qu'il s'agit d'un moyen d'expression nouveau, eh bien les autorités ont été décontenancées. C'est ça qui fait... sa faiblesse d'une certaine manière, parce que il est désorganisé, communautaire, spontané, etc.
Il faut attention aux risques, encore une fois. Ça, il y a des risques qui sont patents. Il y a eu des gens qui sont venus dans des rassemblements qui sont des gens d'extrême droite. Ça ne convient pas aujourd'hui pour notre mouvement pacifique et
éthique. Je suis pas sûr que ça soit un risque qui guette tellement les veilleurs, parce que en réalité, c'est précisément un mode d'action qui, j'allais dire, n'attire pas les faveurs.
C'est-à-dire que celui qui serait là pour faire du désordre serait repéré immédiatement.
Mais voilà, et puis, si vous voulez, généralement, ces gens-là ne se satisfont pas d'un mode d'action qui consiste à s'asseoir derrière une bougie.
Moi, je peux vous faire un...
Et à applaudir en gigotant les mains comme...
Oui, vous ne savez pas qui peut venir à un moment ou à un autre quand ça va devenir...
Et Clément Brevelli nous dira, puisque lui, il y est parti régulièrement, si effectivement il a senti cette menace.
Moi, je sens la menace de la radicalisation, mais bien sûr, vous le savez très bien qu'on est guetté par ça.
Moi, je pense que la menace, elle vient pas directement s'inscrire au cœur des veilleurs, mais c'est des mouvements qui veulent racheter les veilleurs. On a bien vu à Lyon, sur certaines affiches qui annonçaient une veillée à Lyon le 31 août avec le logo des veilleurs, d'ailleurs, qui ont fait après un communiqué en disant non, nous ne joignons pas à
ça. Un communiqué, ils ont mis sur leur site. J'aimerais bien des communiqués officiels. Oui.
Ils ont mis sur leur site.
Mais ils n'ont pas d'association ni d'organisation structurée comme nous.
Et en fait, le problème des veilleurs, c'est que chaque chaque veillée, entre guillemets, dans les régions, n'a pas de lien forcément avec, il n'y a pas d'organisation commune.
Non, c'est vrai, ils sont tous avec l'Action française.
La seule nécessité, c'est que les textes qui sont lus au cours des veillées soient homologués par un espèce de comité directeur, c'est ça?
Pas forcément, mais c'est que, comme il y a une marque, entre guillemets, à l'heure actuelle, des veilleurs, qui est déposée, on a bien vu ce qui s'est passé à Lyon, c'est qu'il y a le printemps français, rejoint par
Action française,
etc., qui a mis le logo des veilleurs, qui a mis le logo des veilleurs sur une affiche concernant un rassemblement le 31 août, également en parallèle avec celle de Paris à Lyon. Et les veilleurs ont eu du mal à réagir parce que justement ils ont un manque d'organisation.
Mais c'est ce qui traduit la grande disparité des oppositions qui se cristallise au projet de loi Taubira ou au gouvernement. Jean-Marc Ayrault, Ludovine de la Rochère, dans les mois qui viennent, comment recentrer les choses, comment s'assurer qu'une ligne cohérente.
En ce qui concerne la manif pour tous,
je répondrai aussi pour l'avenir.
En ce qui concerne la manif pour
tous, au moins deux porte-parole aujourd'hui.
En ce qui concerne la manif pour tous, elle n'a jamais, jamais, jamais changé de message, de ligne, d'ouverture, d'accueil, de diversité, etc. Donc il y a des gens qui veulent faire croire qu'il y aurait une évolution, une radicalisation, ou que sais-je. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre sur les canaux de communication officiels et dans les messages de la manif pour tous en quoi il y a eu un quelconque changement. La manif pour tous est absolument fidèle à sa ligne et à ses finalités. Par ailleurs, tout le monde sait que les veilleurs, à travers tous leurs discours, leurs prises de parole, les veilleurs, les fondateurs et ceux qui s'en occupent au niveau national n'ont jamais eu le moindre message qu'on aurait pu qualifier d'extrémisme. Alors samedi soir, il y avait un petit groupe au sein de tous les veilleurs, dans un moment où on n'avait pas encore eu la possibilité de s'installer, la police nous encadrait et commençait à se resserrer autour de nous. Il y a eu un petit moment d'agitation et je me suis moi-même approché d'un petit groupe qui m'inquiétait un petit peu de fait, et dont j'avais peur qu'il soit venu pour s'agiter. Et j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir à cet instant-là. Et ce groupe, et j'ai dit, ceux qui ne s'assoient pas, qui ne sont pas calmes, n'ont rien à faire ici, ce ne sont pas des veilleurs. Et ce groupe l'a fait comme tous les autres.
30 secondes.
Oui, alors moi j'appelle tout le monde, je pense, Ludo, tu es d'accord, à se rassembler pour une date anniversaire le 17 novembre, pour la première manif. Et j'aimerais qu'on débatte et qu'on dialogue en restant très vigilants les uns et les autres. Nous avons un site Avenir pour tous 2014.
Moi j'attends de voir si la proposition de loi PMA pour tous va être maintenue ou pas. Si elle est maintenue, il faut qu'on soit très 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 très
loin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Maître Henri de Bourgarne, Clément Borioli.
Il y a d'abord la loi PMA.
Merci Ludovine de la Rochère, merci Frigide Barjot, merci à tous de nous avoir suivis. À demain dans La Voix est libre.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.
Le grand débat.
Bonjour, c'est Louis Dauphren. Chaque vendredi, Radio Notre-Dame passe en revue l'actualité de la semaine. C'est le grand débat. Un catholique, un protestant et un orthodoxe livrent leurs analyses fondées sur de vrais points de vue, éclairés par leur foi. Un espace unique que vous êtes déjà nombreux à apprécier. Alors ne manquez pas le grand débat, le trio de l'écuménisme en action.
Le grand débat, animé par Louis Dauphren, tous les vendredis à 7h35 sur Radio Notre-Dame.
Histoire d'en parler.
Depuis 2 ans, je vais revivre pour vous les grandes figures de l'histoire spirituelle de la France, de Saint-François de Sales, Bossuet, Fénelon, jusqu'à Chateaubriand et Victor Hugo. Pour cette saison, je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte de Léon Blois, de Charles Péguy, de Paul Claudel et de beaucoup d'autres moins connus qui tous, humbles ou fervents, prêtres,